Alors, j'ai entendu nucléaire, production électrique, oui. D'accord. D'autres idées? Approvisionnement en quoi? En gaz, oui. D'autres? Bon, vous n'êtes pas trop loin quand même, hein. Chiffre d'affaires. Allez, chiffre d'affaires. Une idée, chiffre d'affaires? 40 milliards ici. Je note. Après. 70 milliards. Qu'est-ce qu'il a dit 70? C'est vous, hein? 70? C'est vous qui avez dit juste derrière, hein? C'est vous. D'accord. Vous dites combien? 30? Combien de 10? 10? Ok. D'accord. Bon, vous êtes trop loin quand même. Hein? Puissance installée, électrique. Alors, sachant, je vais vous donner un petit repère. L'autre, la puissance électrique installée en mégawatts. C'est la puissance. Sachant que l'Autriche, c'est 22 000 mégawatts. Voilà. L'Autriche a une puissance installée en Autriche de 22 000 mégawatts. 22 000. Hein? Alors, qu'est-ce que vous dites? Un chiffre? 200 000. 200 000? Ok. Un autre chiffre? 300 000. Ouf. Je rappelle quand même, l'Autriche, c'est 22 000. Hein. C'est-à-dire que 300 000, ça fait quand même 15 fois l'Autriche, quoi. 16 000. 150 000, là. Voilà. 100 000. Alors après, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, achat de gaz naturel. Vous avez vu, on achète beaucoup de gaz naturel. L'Autriche, c'est 10 milliards de mètres cubes. Pour vous donner un ordre de grandeur. 10 milliards de mètres cubes, l'Autriche. Combien GDF Suez achète de gaz naturel par an? Un chiffre? 20 chiffres par là? Combien? Donc je rappelle, l'Autriche, c'est 10 milliards de mètres cubes, la consommation annuelle. Un chiffre? 30. Cinquante. 215. Ouais, c'est très précis. 315. 75, pardon. 75. C'est bon? On peut rester là? Bon, après, je vais vous passer un petit film et qui va vous montrer un peu ce que fait le groupe dans le monde, hein, dans quel secteur on est présent et quelle production, quel volume on fournit en électricité et en gaz. On peut y aller, là, au niveau... du film. Voilà, la journée ordinaire d'une entreprise extraordinaire. Donc là, on a à peu près toutes les réponses. Hein. Qu'est-ce qu'avait dit 240 000 personnes? Qu'est-ce qu'avait dit 240 000 personnes? Hop! Le chiffre d'affaires. Il y a quelqu'un qui avait dit 70 milliards. Qui avait dit 70 milliards d'euros? Voilà. Petite clé USB. En mégawatts. En mégawatts, vous avez vu, on est dans les 70 000 mégawatts et il y en a encore 20 000 qui sont en construction à l'heure actuelle. Hein, je vous avais dit que l'Autriche, c'était 22 000 mégawatts. Donc, ça fait à peu près 3 ou 4 fois la production de l'Autriche. Et là, qu'est-ce qui était le plus proche? C'était 100 000. Et Green, il avait dit 100 000 mégawatts. Voilà. Ensuite, en milliards de mètres cubes, on achète 120 milliards de mètres cubes par an. Et donc là, c'était le 75 qui était le plus proche. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous a permis de connaître un peu mieux le groupe. Vous avez vu, on est présent dans 70 pays. Donc c'est un gros groupe, c'est vrai, qui résulte de la fusion de Gaz de France, un très entreprise française, gaz naturel, et puis Suez, qui est quand même une grosse, qui était une grosse société de production électrique, essentiellement en Belgique, hein, qui vient du canal de Suez, hein, donc qui était très financière, qui s'est réorientée vers la production électrique, hein, et donc avec Electrabel, gros producteur d'électricité en Belgique, une partie nucléaire, et c'est vrai que le film est un peu pour vous provocateur, parce que parler du nucléaire en Autriche c'est parfois difficile, mais je tenais quand même à le faire, parce que vous allez voir dans le film suivant, où on va parler de mix énergétique, eh bien le nucléaire a sa place dans le mix énergétique de demain. Donc quels sont les secteurs? Donc vous les avez cités, hein, il y a le gaz, la production d'électricité, hein, bien sûr, la vente d'électricité et de gaz, le transport, les infrastructures, hein, vous avez presque tous cité. L'eau, hein, vous avez vu, on est un très gros producteur d'eau. Et l'eau est va être un problème majeur, hein, à régler dans les années qui viennent. Et puis, traitement des déchets. Hein, ça, je pense que, je ne sais pas si vous l'aviez cité. Donc, gaz, électricité, eau, traitement des déchets. Cinquième type d'activité, les services. Donc, Axima, ici en Autriche, fait partie du groupe GDF Suez, hein, donc c'est tout ce qui est climatisation des bureaux, vente de production de chaleur, production de froid. Donc voilà un peu ces secteurs d'activité. Est-ce que vous avez des questions sur les activités du groupe avant qu'on aille vers les problèmes plus d'énergie? Ça vous a surpris? Ça vous a le petit film qu'on vient de voir? Quels sont les remarques que vous pouvez avoir? Allez-y. Hein. Non, j'ai pas encore été assez provocateur. Je vous en prie. Oui. En Autriche? Alors en Autriche, cette participation dans Estag, comme je vous l'ai dit, on l'a revendue. Hein. C'était une joint venture avec EDF. Et lorsqu'on a fait la fusion entre Gaz de France et puis et Suez, l'EDF a dit ben, c'est plus la même société, donc vous avez un change of control, et donc je fais agir mon droit de rachat des parts. Et donc on a dû vendre à EDF. On aurait bien aimé rester en Styrie, moi particulièrement, vous comprenez pourquoi, mais bon, on a dû vendre la société, hein, on a vendu nos parts. Donc on n'est plus dans Estag. Par contre, le gaz pour nous, l'Autriche est très important pour GDF Suez, pour le transport du gaz, hein, puisque le gaz arrive de Russie, traverse la Slovaquie et arrive en Autriche. Hein. Et à peu près, sur les 120 milliards de mètres cubes, il y en a quand même une petite dizaine de milliards qui transitent au travers l'Autriche, qui va ensuite en Allemagne et en France. Hein. Donc c'est quand même un pays important. Et donc on a une société de transport de gaz ici, avec OMV en joint venture, hein, qui transporte le gaz entre la Slovaquie et l'Allemagne. Hein. Donc ça, c'est une partie. Et comme on a vendu notre participation dans Estag, ben en 2008, quand je suis arrivé à Vienne, j'ai créé une société de vente de gaz ici en Autriche. Hein. Donc on vend du gaz, mais à des gros industriels. Hein. C'est-à-dire que on s'est pas mis sur le segment des clients particuliers qui nécessitent une grosse infrastructure. Non, on vend aux gros industriels, enfin, des sociétés qui consomment à minima 40 ou 50 millions de mètres cubes. Donc voilà nos activités. Pour l'énergie, on est présent aussi, comme je vous l'ai dit, par le groupe Axima. Ça, vous connaissez peut-être ce groupe, vous voyez des voitures ici à Vienne, Axima, qui fait l'entretien des bâtiments. Voilà. Voilà nos activités ici en Autriche. Mais les activités de vente de gaz vont se perpétuer, vont, je pense, bien se développer en Autriche. Le marché du gaz est maintenant assez ouvert, assez libéralisé ici en Autriche pour qu'on puisse bien se développer. Oui, je vous en prie.
Justement, on assiste à cette libéralisation du marché. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir le gaz qui est vendu par votre entreprise et pas le gaz
d'un? Alors, quels sont les avantages? Les avantages concurrentiels.
La qualité du gaz, la qualité du service.
Voilà. Pourquoi on arrive à vendre du gaz ici en Autriche? Bon, écoutez, je vais vous expliquer, c'est pas très compliqué. En fait, la plupart des sociétés ici qui sont nos concurrents, donc OMV, mais il y a aussi d'autres sociétés comme E.ON Rogaz, qui s'est associé avec Salzbourg, eh bien, ont un approvisionnement en gaz qui est quand même essentiellement du gaz, on appelle du gaz russe. Hein. Donc ce sont des contrats à long terme. Et en ce moment, on a un petit avantage, c'est que le prix des contrats à long terme, le prix du gaz russe, est indexé sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole est très élevé en ce moment parce que c'est la Chine qui consomme beaucoup de pétrole, qui tire les prix du pétrole vers le haut, alors que la consommation de gaz naturel en Europe est assez basse avec la crise. Donc on a des prix long terme qui sont assez élevés, une consommation, enfin des prix, ce qu'on appelle les prix spot, sur les marchés européens, donc à court terme, on a des contrats long terme, c'est sûr, on a du gaz russe, mais à hauteur de 15 à 20%. Le reste, c'est du GNL, vous avez vu, du gaz naturel liquéfié, qui arrive de partout dans le monde, et donc qui a un prix relativement bas, et puis en plus du gaz spot. Et donc on a un portefeuille d'approvisionnement, on appelle assez attractif. Voilà. Et donc on arrive à faire des prix relativement bas pour les clients industriels. Vous savez, les clients industriels, il y a trois choses qui comptent pour eux, c'est le prix et le prix. Hein? Voilà. Et donc, c'est là-dessus qu'on se bat, réellement. Hein? Alors, c'est, quand je dis ça, c'est le prix, mais on a aussi un atout extrêmement fort, c'est qu'on met en place des produits financiers de protection contre les hausses de prix qui sont extrêmement sophistiquées et très appréciées des industriels ici en Autriche. Donc voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à votre question. D'autres questions avant qu'on entame la partie énergétique pure, mix énergétique? Non? Oui, allez-y. Bon, alors là, on a combien de temps, là? Non. Ça se passe en ce moment. C'est-à-dire que ça a commencé il y a 3-4 ans, avec, je ne sais pas si vous avez vu, les débats en France, c'était dramatique. La privatisation du groupe Gaz de France, c'était très difficile en France, donc il y a eu des montagnes d'amendements à l'Assemblée nationale. C'était un très gros débat. Donc déjà, cette partie-là a été très difficile. Ensuite, bon, les débats ont duré 2 ans en France sur cette fusion GDF-Suez. À la fin, tout le monde en a marre. Même les 4 dirigeants de la société. Et finalement, la fusion a eu lieu il y a 2 ans. Et maintenant, on est dans une phase de post-fusion où on va mettre ensemble tous les processus et tous les gens des deux sociétés. Et là, effectivement, on a un problème interculturel qui est assez fort, parce que d'une part, il y a les gens de Gaz de France, qui étaient quand même des gens d'une société publique, en quelque sorte, plutôt gaz, Et puis vous avez les gens d'Electrabel, société privée, électricité et belge. Donc il y a quand même un choc culturel important qu'on vit en ce moment. Mais moi je suis dans plusieurs groupes de travail de cette fusion. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser les complémentarités des deux cultures plutôt que de s'opposer. Hein. On a la chance d'être dans un grand groupe international. Hein. On est dans 70 pays. Bien sûr, on incite forcément fortement la mobilité entre les différents pays. Hein. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit dans le groupe, c'est que vous prenez quelqu'un de un Mexicain, vous le laissez au Mexique, il est Mexicain, vous l'envoyez au Brésil ou au Pérou, il devient GDF Suez. Hein. Donc la mobilité est extrêmement importante pour fortifier l'esprit de groupe. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est pas facile. D'autres questions? Non? On peut peut-être passer au mix énergétique et ensuite je répondrai à vos questions sur l'énergie. Alors. Donc voilà, donc c'est pour lancer un petit peu le débat sur l'énergie. Donc vous avez bien compris le sens du film, hein, le sens aussi de la stratégie de GDF Suez. C'est finalement un mix énergétique, c'est-à-dire que on va pas faire du solaire en Belgique ou du nucléaire, au Mali par exemple. Hein. On s'adapte au pays, et je pense que c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que les solutions, elles sont jamais valables pour tous les pays. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire du solaire en Algérie, il faut faire plutôt du nucléaire en Belgique parce qu'il y a l'environnement scientifique qui va bien. Et de toute façon, il n'y a pas tellement d'autres choix. Il faut faire de l'hydraulique, en Autriche. Hein, c'est vraiment une bonne chose. Il y a tellement de barrages, tellement de ressources hydroélectriques. C'est vraiment la bonne voie qu'a choisi votre pays pour faire de l'hydraulique. Et au Brésil, évidemment, avec les grands fleuves brésiliens, c'est pas trop compliqué à faire de l'hydraulique. Et par contre, en Arabie Saoudite, vous voyez, on fait plutôt gaz naturel. Plus on utilise la chaleur des centrales pour dessaler l'eau de mer. Hein, et on fait de la production d'eau potable. Donc voilà, c'est du pragmatisme, choisir un mix énergétique qui va bien. Voilà. Alors, le débat est maintenant lancé, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos avis? N'hésitez pas. Allez-y. Je vous en prie.
Quand on voit votre film, on pense que tout est pour le bien dans le meilleur des mondes.
Oui.
Alors, je voudrais vous poser une question à propos du nucléaire en Belgique.
Oui.
Est-ce que vous avez dans les centrales, oui, le même problème qu'EDF en France, qui sont liés en particulier à l'âge? Quel est l'âge de la centrale?
Oui, on a ce même problème. Les centrales commencent à vieillir, hein, c'est clair. Et vous savez, y a un problème de vieillissement en fait de l'acier. Hein. Il y a un problème de vieillissement de l'acier qui vieillit assez mal aux radiations. Il devient de plus en plus cassant. Hein. Donc ça se suit. Hein, donc c'est des grosses cuves en acier qui contiennent le cœur du réacteur. Hein, ça va faire à peu près 40-50 cm. Hein, et donc cet acier devient, avec les radiations, devient cassant. Et donc on a dans ces cuves, on a des échantillons qu'on prélève pour vérifier finalement que l'état de la cuve est encore conforme hein, aux besoins qu'on en a, hein, donc aux conditions de pression, etc., d'exploitation. Et en Belgique, on a fait des études, on est à peu près dans le même cas qu'EDF, hein, les centrales ont à peu près le même âge, hein, et donc on a étudié ces échantillons, et pour l'instant, ces échantillons nous montrent qu'on peut continuer à exploiter ces centrales. Hein, et on a eu une prolongation de 15 ou 20 ans, je pense, pour l'exploitation de ces centrales. Alors bien sûr, ça permet d'éviter de construire des centrales, ça c'est le premier point, donc c'est sûr que les investissements nouveaux sont toujours coûteux, ça c'est clair. Ça permet aussi de diminuer les déchets. Hein, la prolongation d'une vie d'une centrale, ben, c'est autant de déchets qu'on aura en moins plus tard. Hein. Donc voilà, je pense que c'est un problème technique. Il faut le regarder de manière très professionnelle, très scientifique aussi. Je pense qu'en France et en Belgique, il y a un niveau de contrôle et de sûreté qui est excellent, qui est très bon. On n'est pas, enfin en Europe, on n'est pas. Je dis en Europe parce que bon, c'est pas le cas partout dans le monde, mais on pense quand même relativement au long terme. On n'est pas. Moi, j'ai travaillé en centrale nucléaire. On m'a jamais demandé de mettre le rendement avant la sûreté. Enfin, je veux dire, la sûreté, c'est numéro un. Hein. Je veux dire, on a quand même une philosophie d'ingénieur. Hein. On est avant tout ingénieur. On a envie que ça marche bien. Et on est très orienté sûreté. Et on est quand même moins orienté rendement profit que dans d'autres pays.
Et,
oui, je vous en prie. Bien sûr, mais dans toute activité industrielle, il y a des incidents, des incidents techniques. Ça fait partie du risque industriel. Il faut simplement que ce soit bien géré, que les décisions prises soient conformes aux règles de sûreté, que je vous dis qu'il n'y ait pas quand même une trop grande pression de réduction de coûts. Je pense que ça, c'est très important. Et je vous dis, c'est pas le cas. Moi, j'ai travaillé pour EDF, j'ai travaillé pour GDF Suez. C'est pas l'impression que j'ai eue en travaillant dans ces sociétés. Voilà la réponse que je peux vous donner. Et encore une fois, je vous dis, bon, en France, en Belgique, dans ces pays-là, je suis assez confiant sur le niveau de sûreté des centrales. On n'a pas encore eu de contrat, hein, pour construire dans les pays à l'étranger. On sera extrêmement prudent. On sera extrêmement prudent sur le type de pays. Voilà. Je pense que c'est vraiment la réponse que je peux faire. Et dans la stratégie qu'on développe, dans notre mix énergétique, on sera extrêmement prudent, à la fois sur des problèmes de compétences, hein, du personnel sur place. C'est un très gros critère, hein, la compétence du personnel sur place, la stabilité du pays. Lorsqu'on construit une centrale nucléaire, c'est pour 25, 30, 40 ans. Hein, donc la stabilité politique du pays, c'est quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas se permettre de construire du nucléaire dans des pays instables, hein, politiquement, faut vraiment faire attention et on sera très vigilant là-dessus. Donc, vous avez bien vu le film, il y a des pays qui sont super pour l'hydraulique, il y a des pays qui sont super pour le solaire, hein, qui sont très bien pour le nucléaire. Essayons déjà de faire ça avant de faire des mix dans chaque pays. D'autres questions, n'hésitez pas, hein, parce que c'est vraiment des questions-réponses, hein, la façon dont on va dialoguer aujourd'hui. Oui, je vous en prie. Alors attendez, de GDF Suez, ou d'EDF ? Face à EDF. D'accord. Donc vous avez bien vu, hein, en fait, avant, EDF et Gaz de France, c'était des sociétés 100% qui appartenaient à l'État. L'État français a souhaité mettre un peu de concurrence et donc a dit, bon ben voilà, on va séparer ces deux sociétés, elles vont être indépendantes. On va privatiser une part d'EDF, on va privatiser une grosse part de GDF, et on va les laisser vivre pour créer un peu de concurrence en France où il n'y avait qu'un monopole d'électricité et de gaz. Bien sûr, on a laissé rentrer les autres groupes européens en France aussi. Alors maintenant, quelle part, c'est la question, c'est quelle part de marché a le groupe GDF Suez dans l'électricité en France ? Pour l'instant, elle est relativement faible. Je pense qu'on est en dessous de 10%. On est en dessous de 10%. Par contre, EDF se développe bien dans le gaz. Alors, c'est beaucoup plus facile pour EDF de se développer dans le gaz, c'est-à-dire que l'inverse, que pour Gaz de France se développer dans l'électricité, parce que lorsque les gens, en fait, ils ne changent de fournisseur, et c'est vrai aussi en Autriche, ils ne changent de fournisseur d'énergie que lorsqu'ils déménagent. En gros, lorsque vous êtes à un endroit, ben, vous avez votre fournisseur habituel, les différences de tarifs, c'est 20-30 euros, vous n'allez pas remettre en question tous les contrats pour cette différence de tarifs. Donc en fait, mais c'est quand vous déménagez, vous remettez un peu tout en question, vous dites, ah là, je vais changer, etc. Je regarde un peu les tarifs de télécom, d'électricité, de gaz, etc. Vous comparez un petit peu tout. Et en fait, les gens changent de fournisseur lorsqu'ils déménagent, essentiellement. Le problème, c'est qu'en France, lorsque vous demandez à un Français, comme mes beaux-parents ou mes parents, vous leur demandez, mais finalement, qu'est-ce qui vous fournit du gaz ? Alors là, 100%, les gens vous répondent, mais c'est EDF. Parce qu'en fait, pendant des années, pendant 20, 30 ans, ils ont reçu une facture au nom d'EDF-GDF. Et pour eux, c'est EDF. Et c'est EDF qui vend le gaz et qui vend l'électricité. Et donc, il y a quand même un avantage très fort d'EDF à conserver cette part de marché. Voilà. Donc, on se bat pour prendre des parts d'électricité, mais c'est pas facile. C'est pas facile. D'abord, est-ce qu'il y a des questions de compréhension ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris sur lequel je peux revenir ? Vous n'avez pas compris de manière auditive ou quelque chose que vous avez présenté, que vous n'avez pas bien saisi et que je peux réexpliquer ? Donc, est-ce que vous avez des questions de ce type-là ? Non ? Ce n'est pas le cas ? C'est magnifique. Je vous en prie.
Bravo !
Où est-ce que j'ai encore une clé USB ? Oui. Oui.
Est-ce que le GDF Suez partenaire de ce projet ?
Ah oui. Alors, il y a un très gros projet allemand, je pense, et puis allemand essentiellement, d'installation de panneaux solaires en Afrique, dans le Sahara. Alors, on n'est pas partenaire du projet. On regarde comment ça se développe. On est un petit peu sceptique quand même. Parce que, pour plusieurs raisons. D'une part, il faut acheminer. Ce n'est pas une zone de consommation d'électricité. L'électricité se transporte mal. Le gaz naturel, on peut le transporter assez facilement et dans des bonnes conditions de sécurité sur des grandes distances. C'est-à-dire qu'on fait un gros pipeline, on le met sous terre, tous les 300 km, on recomprime, pouf, ça repart. On peut transporter de manière économique le gaz naturel sur 3-4 000 km. L'électricité, c'est beaucoup plus compliqué. L'électricité, ça se transporte bien sur maximum 300-400 km. Si on fait des grosses lignes en courant continu, on peut peut-être aller un peu plus loin, mais c'est très difficile à transporter. Donc ça, il faut que vous ayez bien ça en tête. L'électricité, c'est quand même un produit très local. Le gaz, c'est un produit international. On peut le transporter par pipeline, comme je vous l'ai dit, par canalisation, on peut le transporter aussi en le liquéfiant. Vous avez vu, dans le film, il y a des bateaux, des tankers, donc on liquéfie le gaz naturel, on le met dans des bateaux, on le transporte à un endroit de consommation et on le regazifie. Ce qu'on appelle le GNL, gaz naturel liquéfié. L'électricité, ça se transporte mal. Alors, on regarde ce projet, on est intéressé parce qu'effectivement, si ça se développe bien, bah, c'est quand même intéressant. Par contre, je vous dis, gros problème de transport, quand même, l'électricité. Donc, il faudrait trouver une solution. D'autres questions sur la production, sur l'économie? Sur le nucléaire aussi, je peux parler du nucléaire. Je vous en prie. Oui. 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 Alors là aussi, ça peut être très très long. Hein. D'abord, une caractéristique du marché autrichien en général, avant de parler du marché d'électricité ou d'énergie, hein, c'est quand même un marché qui est assez petit, hein, en Europe. Hein, 8 millions d'habitants, c'est pas énorme. C'est un marché petit. Donc ça, c'est la première caractéristique. C'est un marché aussi, de manière générale, qui est un peu protégé. C'est-à-dire que l'ouverture à la concurrence est finalement assez récente. L'énergie, c'est un peu particulier. Le régulateur autrichien a fait vraiment un très bon travail. Mais quand même un peu protégé, avec des sociétés régionales qui sont encore sous l'emprise des États régionaux, des régions, des Landes. Donc ça favorise pas non plus... ça favorise pas quand même l'élargissement du marché. Donc, petit, un peu protégé. Et quand même, un peu patriotique. Hein, les gens aiment bien, mais à juste cause aussi. Enfin, je veux dire, j'adore le vin autrichien. Quand je suis ici en Autriche, je bois du vin autrichien. Le vin du Burgenland ou le vin blanc de Styrie, c'est super. C'est vraiment... Et donc... Je pense que, enfin, j'ai rien contre la mondialisation, mais quelque part, l'aspect région, c'est bien aussi. Donc ici en Autriche, il y a un aspect régional. Les gens aiment bien les produits qui sont fabriqués sur place, qui ne facilitent pas l'ouverture du marché. Mais encore une fois, je dis pas ça de manière négative. Hein, c'est une bonne chose. Donc. Voilà trois éléments qui ne facilitent pas tellement les ouvertures du marché, les pénétrations pour quelqu'un qui arrive un peu nouveau dans le marché autrichien. Le marché allemand, un peu de même type, mais quand même plus ouvert, plus grand, plus concurrentiel. Voilà. Quoi. Mais quand même, il faut que je vous dise, il y a un miracle économique autrichien. Enfin, moi, ça fait 9 ans que je suis en Autriche, je ne m'explique toujours pas. Il y a des éléments qu'on voit bien, mais l'Autriche, dans cette crise, s'en sort de manière extraordinaire. C'est un très bon travail, hein, qui est fait ici. C'est pas fini, la crise qu'on est en train de vivre n'est pas finie, mais quand même, ce qu'on a vu est assez, assez bon. Quoi. Alors, qu'est-ce qui favorise ça? Ben oui, je pense qu'il y a les universités, hein, il y a vous. Je pense qu'il y a un très très bon niveau de formation finalement, hein, dans les universités, dans les écoles. Hein, je pense que quand on compare les systèmes d'enseignement français, allemand, l'Autriche est juste au milieu. Et finalement, c'est un système qui est entre le système français et le système allemand qui est assez bien équilibré. Donc je trouve que la qualité de formation des collaborateurs qu'on peut avoir en Autriche est excellente. Donc ça, c'est un point qui est très favorable aussi au développement d'une société. Et c'est pas pour rien qu'on a mis aussi le quartier général du groupe ici à Vienne. Élément favorable aussi, je pense que le système fiscal est assez bon. C'est-à-dire qu'il favorise le développement des petites entreprises familiales. Et lorsque dans une, lorsqu'on a vu dans la crise, finalement, les entreprises familiales sont assez, assez stables dans leur développement. C'est-à-dire qu'une entreprise familiale, finalement, va, dans une période de crise, va peut-être agir plus sur le long terme qu'un grand groupe. Et ça, c'est un facteur très, très stabilisant aussi pour l'Autriche. Je pense que la structure fiscale qui favorise le développement des petites et moyennes entreprises, des entreprises familiales, est à mon avis quelque chose de très, très intéressant. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur l'activité de notre groupe de conseillers du commerce extérieur. On est en train de faire une comparaison des systèmes français et autrichien, notamment qui permettent le développement des petites et moyennes entreprises. Quels sont les facteurs qui favorisent ce développement? Et d'ailleurs, avec la Wirtschaftsuniversité, on a lancé un groupe de travail là-dessus, et c'est très intéressant. Et l'aspect fiscal est à mon avis quelque chose de fondamental. Il y a beaucoup plus de PME capables d'exporter en Autriche à superficie égale qu'en France, par exemple. En France, il n'y a plus de petites et moyennes entreprises. Elles ont été complètement absorbées par les grands groupes, et ça, c'est dû à un problème essentiellement fiscal. C'est-à-dire qu'en France, il y a un impôt sur la transmission, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un impôt sur la transmission du patrimoine qui est très élevé. Donc un chef d'entreprise qui a développé son entreprise, dizaines de personnes, il y a mis toute sa vie, il veut le transmettre à sa famille, il ne peut pas parce que sa famille est obligée de payer 50% de la valeur de l'entreprise. Donc l'entreprise est souvent rachetée par un grand groupe, hein, et c'est la fin de la PME. Alors c'est valable pour les entreprises industrielles, c'est aussi valable pour les hôtels, les restaurants. Et donc on a en France un très gros problème de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a une désertification à ce niveau-là, et c'est des groupes comme Accor, comme des grands groupes d'hôtellerie, qui rachètent tous ces hôtels en France. Voilà. Et je vous en prie. Oui. Oui, vous avez raison. Le dessalement tel qu'on pratique consomme de l'énergie, clairement. Ça, c'est sûr. Mais vous savez, les gens ont besoin d'eau. Si vous allez en Arabie Saoudite ou en Oman, au Sultanat d'Oman, vous leur expliquez ça, oh, c'est pas terrible pour le CO2, etc. Mais ici en Autriche, bon, vous avez de l'eau. Très bien. Mais l'eau, c'est quand même vital. Hein, vous savez que vous pouvez vous abstenir de manger, hein, mais de boire, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est un besoin vital quand même qu'il faut satisfaire. Actuellement, dans ces pays-là, on n'a pas d'autre solution que par les centrales, par le procédé qui vous a été montré. À plus long terme, dans d'autres pays, on aura peut-être accès à d'autres technologies. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. À un moment, on a pensé, par exemple, transporter des icebergs du pôle Nord vers l'Arabie Saoudite. Bon, c'est pas, à mon avis, non plus sur au niveau du bilan énergétique très, 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 très bon. Donc, il faut être assez pragmatique. Pour l'instant, c'est une solution qui marche. Ce n'est pas forcément une solution à un avenir très, très long, hein, mais je pense que dans les 10 prochaines années, malheureusement, il n'y a pas d'autre possibilité. Puis, en plus, le gaz naturel, dans ces pays-là, c'est souvent ce qui les intéresse, c'est produire du pétrole. Il n'y a pas de possibilité de transporter ce gaz naturel ailleurs. Et donc, ils ont soit la possibilité de le réinjecter dans le sol, hein, soit de le mettre en Arabie Saoudite, jusqu'à une date assez, assez récente, ils enflammaient le gaz naturel. Hein. C'est quand même mieux de l'utiliser dans des centrales pour produire de l'eau que de le mettre, que de l'enflammer, quoi. Donc, on améliore, c'est pas la solution idéale, mais c'est pragmatique. Oui. Si, c'est important, mais c'est très très localisé. Vous voyez, en Islande, par exemple, la géothermie est très utilisée. C'est 90% de la consommation de l'île. Donc c'est vraiment très ponctuel, la géothermie. C'est très très localisé. Donc dans les endroits où effectivement il y a une certaine activité volcanique, c'est
low batterie, hein, la batterie.
C'est dans assez peu d'endroits finalement dans le monde, quoi. Ouais, mais après vous avez d'autres problèmes, hein. Après vous avez d'autres problèmes. Ce sont les forages profonds, c'est des choses très très coûteuses, très très compliquées. Vous avez la tenue des matériaux aussi qui est un problème pas très évident, quoi. Oui. Oui, ben, là je suis pas vraiment au courant, je peux me renseigner si ça vous intéresse et vous revenir là-dessus. Je pense que le groupe a une activité géothermique, mais qui est quand même assez, pour l'instant, assez au niveau de la recherche, quoi. Ou bien dans des pays où c'est facile, comme en Islande. Mais vous avez raison, c'est à chaque fois un mix, il faut s'adapter, quoi. Il faut s'adapter à chaque pays, à chaque configuration. Faire un peu de recherche, mais pas trop quand même, parce que sinon on va dans des solutions qui ne sont pas économiques. Et les solutions qui ne sont pas économiques à long terme, elles sont abandonnées. Donc c'est aussi une perte d'énergie. Donc il faut faire. Non, mais il faut faire de la recherche. Il faut développer des nouvelles idées. Et puis vous êtes là pour ça. J'espère que vous allez venir avec d'autres idées, d'autres sources d'énergie, parce que l'énergie, c'est important. Ce serait important pour nous. Avoir un peu de pragmatique aussi, de la bonne science de l'ingénieur et de l'économiste. Santé. Alors, oui, ben je pense qu'elle va jouer un rôle important. Je suis persuadé que l'énergie nucléaire va jouer un rôle important. Mais il faut que ce soit une énergie nucléaire bien maîtrisée sur le plan technique, encore une fois dans des pays qui vont bien. Mais je pense que quand on voit les problèmes que rencontrent le charbon, le pétrole, etc., l'énergie nucléaire, à mon avis, est quand même pas mal d'avantages, quoi. C'est sûr qu'il y a des problèmes à résoudre encore, hein. Tout n'est pas bleu, hein. Il y a encore des points noirs, hein, clairement. Mais bon, quand même, je pense que le nucléaire va jouer un grand rôle dans le mix énergétique mondial dans les années qui viennent. Il y a quelque chose de très intéressant, je ne sais pas si vous l'avez noté. Alors, je ne sais pas comment il faut le prendre quand on voit les problèmes de logiciels, mais Bill Gates a décidé de se développer dans le nucléaire. Donc c'est quand même une tendance forte sur... je pense que c'est quelqu'un, on apprécie ou pas, hein, Bill Gates, mais bon, c'est quelqu'un qui a des visions marketing extrêmement fortes, quoi. Donc s'il pense à se développer, il a déjà créé sa société, il a développé un concept. En gros, il veut faire avec le nucléaire ce qu'il a fait avec l'informatique. Alors j'espère qu'au niveau sûreté, ça sera un peu mieux que les logiciels de Windows, et qu'il aura moins le monopole, parce qu'en fait c'est aussi une question de monopole, hein. Et qu'il aura moins de monopole. Mais ça montre quand même le développement et l'intérêt de cette énergie. Voilà. Les... pour conquérir des parts de marché, c'est ça? Hein? Écoutez, donc ici en Autriche, je peux vous en parler. En fait, on sait, sur le prix, c'est très difficile. Enfin, sur le prix, on se bat un petit peu. Hein, et je vous ai dit, par de notre mixte d'approvisionnement, on arrive quand même à avoir des prix intéressants. Mais les différences de prix sont assez faibles. Hein. Donc, on essaie de se battre aussi sur autre chose. Et sur autre chose, ce sont les opérations de couverture financière. C'est-à-dire qu'on offre à nos clients des... vous êtes en économie, vous allez savoir ce que c'est mieux que moi... Hein, des solutions de hedging, de couverture à terme de prix, donc de plus en plus sophistiquées, qui leur permettent de garantir à leur business model une certaine stabilité de prix de l'énergie. Hein. Donc par des opérations de couverture à terme, on arrive à faire ça. On leur offre aussi des possibilités de changement d'indexation de formule de prix, c'est-à-dire que actuellement le prix en base est indexé sur le pétrole. On leur dit, écoutez, vous pouvez indexer ce prix sur, par exemple, pour un papetier, sur le papier, ou pour un producteur d'électricité, on peut lui dire, on va vous fournir le gaz au prix de l'électricité, enfin, on va vous l'indexer sur le prix de l'électricité. Et donc, GDF Suez, on a une grande société de trading qui nous permet justement de fournir à ses clients ses services financiers. Voilà. Écoutez, je suis désolé, je vais devoir m'interrompre. Justement, pour aller, je vais cet après-midi à Madrid, où je vais organiser un groupe de travail pour la fusion Gaz de France Electrabel, Gaz de France Suez, en Espagne, à Madrid. Donc je suis obligé malheureusement de vous quitter pour prendre mon avion. Je voulais vous remercier pour les questions que vous m'avez posées. J'espère que je vous ai appris un peu plus sur ce qu'était le groupe GDF Suez et puis donner envie de travailler aussi pour ce groupe. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a un site internet. On recrute quelque chose comme 10 000 personnes dans les 3 prochaines années, mondiales. Voilà. Donc il y a plein de stages, plein de recrutements. Vous allez voir sur le site internet, il y a vraiment une. On va vraiment embaucher dans les prochaines années.
Bon, merci. On se revoit à l'automne, à la troisième rencontre économique.